Bon, allez, on va y aller. Merci de nous avoir rejoints pour cet après-midi. On va démarrer par l'illustration d'une thématique qui nous paraît très importante. C'est le fait que l'on évoque à tout bout de champ les OGM en tant qu'application, alors que si on reprend l'histoire de la génétique moléculaire depuis le milieu des années 70, il ne faut pas oublier qu'on a commencé par développer des outils de recherche et que ce sont ces outils de recherche qui ont trouvé des applications assez rapidement. Et c'est vraiment une des caractéristiques essentielles de l'histoire finalement récente de la génétique moderne, c'est que l'on est passé d'abord très rapidement de la recherche aux applications. Il a fallu quelques années pour arriver aux premières protéines thérapeutiques. C'est quelque chose qui sera illustré après la table ronde qui nous occupe jusqu'à 15h30. Et il y a sans arrêt des allers-retours entre les applications et la recherche fondamentale. Et pour illustrer mon propos et lancer la table ronde, j'ai juste une petite illustration parce qu'elle me paraît symptomatique de la situation, de ce qui se passe. Alors si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Alors c'est la seule chose que je vous présenterai. Ce que vous voyez sur cette image, c'est un accident de parcours, accident qui est arrivé lors de recherches, qui avait un caractère fondamental, mais qui n'était sûrement pas dénué d'applications potentielles. Sur la partie droite, en haut et en bas, vous avez deux pétunias qui ont une certaine coloration, et des chercheurs qui faisaient ce travail, c'était en 1990, voulaient faire varier la coloration de ces pétunias. Et notamment, ils pensaient renforcer la coloration, les rendre plus foncés, plus violets que ce qu'ils n'étaient. Et vous voyez que le résultat, c'est sur la partie gauche. Dans les deux cas, le résultat fut inverse de ce qu'ils pensaient faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont introduit dans les pétunias de droite, dans le génome, dans les gènes des pétunias dans le génome des pétunias de droite, ils ont introduit un gène qui était lié à la synthèse d'un pigment. Et donc, pour eux, à l'origine, l'idée, c'était de renforcer la coloration. Et vous savez qu'en science, les accidents conduisent souvent à des histoires vraiment très importantes. Eh bien, ça a été le coup d'envoi ou le début, ce qui a mené à la découverte 5 ans après par des travaux qui ont été faits à ce moment-là sur un ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans. Ça a été la découverte de ce qu'on appelle aujourd'hui les ARN interférents, dont on ne va pas vous parler dans le détail. Mais sachez que les ARN interférents, aujourd'hui, ce sont des outils de recherche. Et pour tous les gens qui sont dans l'industrie pharmaceutique, ce sont potentiellement des applications fortes qui pourraient conduire à des thérapies. Et pour vous citer vraiment une anecdote, une petite start-up américaine a mis au point un procédé à l'aide d'ARN interférent et elle a été rachetée par la société Merck $1 milliard. Donc c'est pour vous situer un peu les enjeux qui sont derrière ces histoires-là. Donc vous voyez, on a sans arrêt cet aller-retour entre le fondamental et le privé et les applications. Donc nous allons nous cantonner au fondamental pendant cette table ronde et vous allez avoir 3 intervenants qui sont enseignants-chercheurs ou chercheurs à l'Université de Poitiers. Le premier intervenant, c'est Pierre Coutos, qui a une caractéristique originale et qui est complètement dans l'illustration de ce que je viens de dire, puisque Pierre Coutos a travaillé dans le privé avant d'être nommé professeur à l'Université de Poitiers. Donc il va vous dire un petit mot de son histoire et puis surtout des outils qu'il utilise. Et vous allez avoir des illustrations donc dans le domaine végétal de son côté, puis dans le domaine animal, cellulaire. Donc à différents niveaux, vous allez voir les magnifiques outils qui sont utilisés aujourd'hui et qui mettent en jeu ce que l'on peut qualifier d'organisme génétiquement modifié. Alors Pierre, je te donne la parole.
Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai travaillé dans le privé au départ de ma carrière, ce qui sous-entend que j'étais plus orienté sur les OGM en termes appliqués, c'est-à-dire essayer de trouver de nouvelles variétés pour leur développement au niveau de l'agriculture. Et puis par la suite, je suis donc parti vers une carrière de chercheur fondamental en tant que professeur à l'Université de Poitiers. Et en fait, ça va être le but un petit peu de ma présentation cet après-midi, c'est de vous montrer qu'en fait, en plus des applications potentielles des OGM, les OGM pour nous, végétalistes, sont des outils absolument indispensables et incontournables pour le chercheur. Alors, pour appuyer mon propos, je vais vous faire juste un petit rappel fondamental de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base d'un organisme vivant, il y a donc une molécule importante que l'on appelle l'ADN, qui est le code génétique qui porte l'ensemble des gènes. Et ces gènes vont coder pour des protéines. Ces protéines qui vont s'exprimer au niveau d'une plante ou d'un organisme animal vont aboutir à tous les caractères physiologiques ou biochimiques d'un organisme, c'est-à-dire le fonctionnement proprement dit de cet organisme, la mise en place des organes, la différenciation des tissus, etc. Et cet ADN, il se multiplie par cycle cellulaire au niveau de la mitose pour former tout l'organisme. Alors, on peut se poser la question, dans le cadre de la manipulation de cet ADN, pourquoi essayer de construire des OGM ? Et c'est une question qui a été déjà posée ce matin. Donc, effectivement, il y a les OGM à but appliqué, donc qui sont sur la droite de la diapositive actuelle, dont je ne parlerai pas donc aujourd'hui. Et puis, les outils de la recherche donc, que je vais développer maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que ces outils de la recherche nous permettent à tout moment d'essayer de trouver la fonction d'un gène, c'est-à-dire, plus exactement, la fonction de la protéine qui est codée par ce gène, puisque c'est cette protéine-là qui va donner le caractère à la plante. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir localiser la protéine qui est codée par ce gène, c'est-à-dire où va-t-elle, à quel endroit, au niveau des organes, au niveau des tissus, au niveau d'une cellule. Et puis enfin, il y a un paramètre très très important, c'est que ces gènes dans les organismes vivants ne sont pas comme ça anarchiquement exprimés, c'est quelque chose qui est régulé, il y a une régulation fine de ces gènes. Et donc les OGM vont nous permettre d'étudier la régulation précise de ces gènes. Donc je vais essayer de vous donner un certain nombre d'exemples. En fait, l'idée, c'est d'utiliser donc des systèmes de transgénèse classique, donc vous connaissez peut-être. Donc en principe, on va utiliser un vecteur. Ici, sur la diapo que vous avez présentée, c'est une bactérie naturelle qu'on appelle Agrobacterium, qui en fait contient de l'ADN et va injecter dans la cellule végétale de l'ADN. En principe, cette injection conduit à une maladie. Nous, qu'est-ce que l'on va faire, chercheurs ? Eh bien, on va remplacer cet ADN qui conduit à la maladie dans la bactérie par l'ADN que l'on veut, que l'on désire modifier au niveau de la plante. Et comme l'ADN va être intégré au niveau du noyau de la cellule végétale va se mettre à exprimer ce gène. Le deuxième outil que l'on a à notre disposition pour faire de la transgénèse, c'est ce qu'on appelle le canon à particules ou la biolistique. C'est-à-dire qu'on va prendre des très fines particules métalliques sur lesquelles on va coller l'ADN et on va envoyer ces particules à très forte pression sur un tissu. Ces particules vont rentrer dans la cellule végétale. Comme l'ADN est collé sur cette particule, l'ADN va rentrer dans la cellule végétale et il va s'exprimer au niveau de cette cellule végétale. Une fois que l'on a fait la transformation génétique, à partir des tissus que l'on a transformés, on va pouvoir régénérer une plante entière. Donc on va faire différents systèmes de culture qui vont nous permettre d'obtenir des bourgeons, des racines, une croissance d'une plante normale et d'obtenir donc une plante transgénique. Alors, la question fondamentale, c'est de dire, cette plante transgénique, à quoi elle peut bien nous servir au niveau de la recherche fondamentale comme outil ? Alors, je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement. En termes de rappel, il faut savoir que donc un gène, en principe, il code pour un ARN messager, qui est un intermédiaire, en fait, au niveau de la transcription, Et c'est cet ARN messager qui va produire la protéine. C'est la protéine à l'intérieur de la cellule qui est l'élément actif qui va apporter la fonction et la localisation. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce gène, il est constitué de trois parties. La partie centrale que j'ai mis en bleu ici, qui est la partie codante, qui est la partie qui va donner réellement l'ARN messager, donc qui va donner réellement la protéine. Et c'est cette partie-là qui confère la fonction biologique de la protéine en question, et qui confère aussi très souvent la localisation de cette protéine. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, nous, chercheurs. Et donc, on va essayer, grâce aux OGM, de comprendre ces deux phénomènes. L'autre partie, qui est en amont, donc la partie qui est ici, c'est ce qu'on appelle le promoteur. En fait, pour simplifier, le promoteur, il faut le considérer comme un bouton, un interrupteur, on-off, qui permet de faire exprimer ou de ne pas faire exprimer la protéine. C'est un régulateur, tout simplement. Un régulateur très précis. Et là aussi, on ne sait pas comment ce régulateur fonctionne. Donc au niveau de l'utilisation des plantes transgéniques, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce régulateur. Donc si on s'intéresse à la partie centrale, c'est-à-dire la partie codante qui va conférer la fonction biologique à la protéine. La première idée que l'on peut avoir en recherche fondamentale, c'est de dire, par rapport à cette partie codante, comment peut-on arriver à bloquer la formation de la protéine pour rechercher un caractère, un phénotype, ce qu'on appelle un phénotype ou un caractère visuel associé, qui va nous permettre de déboucher sur une fonction. Parce qu'on vous parle de génomique, de séquençage systématique, c'est bien gentil de connaître la séquence du génome. Si on ne connaît pas la fonction du gène en question, ça n'a en principe aucun intérêt. Donc, comment peut-on arriver à essayer de bloquer cette partie codante? C'est la première grande des applications dont tu as parlé un petit peu au préalable. Je ne vais en développer qu'un aspect, c'est la partie qu'on appelle l'utilisation de systèmes antisens chez les plantes. Ce qu'il faut comprendre sur cette diapositive, c'est que sur la partie de gauche, c'est en fait la situation que vous avez réellement dans une plante normale. C'est-à-dire que dans la plante, vous avez un gène qui a une partie codante, qui est en vert, et un promoteur qui est devant, qui permet de réguler l'expression de ce gène. Ce gène, ce qu'on appelle le gène sens, il va coder pour un ARN messager qui aboutit à la formation d'une protéine. Nous, on va fabriquer la partie de droite. On va fabriquer un gène artificiel, complètement artificiel, qui utilise le même promoteur, exactement, la même partie codante. La seule différence, c'est que la partie codante, je la retourne. J'ai des ciseaux spéciaux, enzymatiques, qui me permettent de la couper et de la retourner et de la mettre à une orientation de 180 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, je vais le remettre dans la plante en question qui contient la copie endogène normale du gène. Eh bien, cette partie-là, il n'y a aucune raison, elle va être transcrite en un ARN. Mais bien sûr, comme j'y ai retourné, vous voyez que l'ARN, il est antisens. Et par la loi de complémentarité donc des acides nucléiques, en fait, cet ARN antisens qui s'exprime dans la plante va venir se coller sur la copie sens normale de la plante. Je vais donc faire apparaître une situation nouvelle dans la cellule végétale, c'est-à-dire une situation qui n'existe pas en principe, c'est-à-dire un ARN double brin, alors que les ARN en principe messagers chez les plantes sont des ARN monobrins, simple brin. Cet ARN monobrin, bien sûr, il n'est pas traduisible, hein, donc je ne peux pas fabriquer de protéines à partir de cet ARN. J'ai complètement éteint l'expression de mon gène qui était présent. Si je suis capable de lui attribuer un caractère biologique, j'aurai trouvé la fonction. Donc c'est exactement ce qui est représenté ici sur ce schéma. Depuis très longtemps, par exemple, pour la maturation des fruits, on sait que pour certains fruits, l'éthylène, qui est un gaz, hein, qui est une hormone végétale, est une clé pour l'entrée en maturation des fruits. Cet éthylène, il est produit par une enzyme que vous avez représentée ici ou au-dessus de la flèche, qui s'appelle l'ACC oxydase, à partir d'un substrat qui s'appelle l'ACC. D'accord ? Donc, l'enzyme importante, c'est l'enzyme clé, l'ACC oxydase, qui va permettre la fabrication de l'éthylène pour déclencher la maturation. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un ARN antisens ACC oxydase pour éteindre l'expression de l'ACC oxydase. Et qu'est-ce que l'on voit sur le phénotype en fait des plantes? Donc sur la gauche, vous avez en début de maturation les tomates transgéniques antisens et les tomates sauvages normales. Hein. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence visuel, en termes de grosseur, en termes de couleur, en termes de productivité, c'est à peu près la même chose. Par contre, en fin de maturation, qu'est-ce que je constate ? Je constate que les sauvages ont parfaitement mûri, elles sont devenues rouges, sans problème, alors que mes tomates anti-sens n'ont absolument pas rougi. Elles n'ont pas évolué depuis le stade début de maturation. J'ai bien bloqué la maturation. Donc j'ai prouvé par ce fait-là que le fait de bloquer la CC oxydase empêche bien la production d'éthylène et que c'est bien le verrou qui va empêcher la maturation et l'entrée en maturation des fruits. Donc ça, c'est le premier grand exemple. Deuxième grand exemple que l'on va beaucoup utiliser en recherche. La protéine qui est produite par la partie codante du centre, elle ne va pas n'importe où. Ce n'est pas quelque chose au hasard. Elle est adressée à certains endroits particuliers pour aller exécuter sa fonction biologique, à l'endroit où il faut. Donc, il y a une localisation importante de ces protéines. Comment on peut utiliser les OGM pour essayer de localiser une protéine au niveau d'un tissu ou d'une cellule ? Eh bien, c'est tout simple. On va essayer de marquer la protéine en question par une étiquette. Donc, c'est une étiquette entre guillemets biologique. C'est une étiquette qui va être une étiquette fluorescente, par exemple, ou de couleur, qui va nous permettre de la visualiser, de la localiser à l'endroit où on veut. Donc, comment fait-on ce style d'opération ? Je reprends mon gène que j'avais tout à l'heure. Je ne touche pas à la partie promotrice, c'est-à-dire le promoteur. Je ne touche pas à la partie qui donne la protéine, c'est-à-dire la partie codante. Mais juste derrière la partie codante, je colle une séquence supplémentaire qui code pour un petit peptide que l'on appelle la GFP, ou Green Fluorescent Protein, qui va de conférer à la protéine en question un caractère de fluorescence. Et la fluorescence, en microscopie, je vais pouvoir suivre cette fluorescence, la regarder, où est-elle située. Et comme elle est collée à la protéine, elles ne peuvent rien faire d'autre que de suivre la protéine en question. Donc, je vous donne là un exemple d'application. On suspectait que la protéine que l'on étudiait était adressée au noyau. C'était un facteur de transcription régulateur de l'expression des gènes. Donc, on a voulu savoir si, effectivement, la protéine en question allait dans le noyau. Donc, qu'est-ce que l'on a fait ? On a fait exactement ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire coller la GFP derrière la protéine en question. Et vous voyez que sur une cellule végétale en culture, donc là, vous avez plusieurs cellules, 1, 2, 3, 4 cellules qui se sont séparées par division cellulaire. Et le spot vert que vous voyez correspond à la fluorescence que j'observe, qui est en fait exactement localisée dans le noyau de la cellule végétale. Donc j'ai bien prouvé la localisation de ma protéine. Dernière étape de ma présentation, c'est cette fois-ci, je vais oublier la partie codante, mais je vais m'intéresser davantage à la partie promotrice, c'est-à-dire au régulateur qui est présent en amont de mon gène. Donc comment je peux faire pour faire une étude fine de la régulation de l'expression conférée par ce promoteur ? Eh bien, au niveau moléculaire, je n'ai pas de limite, je peux le faire sans problème. C'est-à-dire que je prends mon promoteur à étudier et je vais coller en aval de ce promoteur, à la place de la partie codante pour la protéine, je remplace la partie codante pour la protéine, par mon peptide, par la séquence qui code pour le peptide GFP. Et je vais transformer mes cellules végétales et mes plantes avec cette construction-là. Je peux utiliser d'autres gènes marqueurs. Là, j'ai pris un exemple en fluorescence. Je peux très bien prendre un exemple comme le gène de la glucuronidase qui va donner une couleur bleue à mes tissus ou à mes cellules. Je transforme mes plantes, je régénère et je regarde ce qui se passe. Eh bien, exactement comme on peut le voir, par exemple, parce que c'est un outil qui est très utilisé dans le système animal, sur l'exemple, par exemple, de la souris que vous avez en premier, on peut faire exactement la même chose chez les plantes. Vous avez sur la deuxième diapositive, ici, ce que je vais appeler régulièrement des poils de feuilles d'Arabidopsis. En fait, ça a un nom, ça s'appelle des trichomes, mais ce sont en fait des systèmes de poils qui sont à la surface. Et en fait, le promoteur que j'ai étudié confère une expression particulière au niveau de ces trichomes. Et vous pouvez voir qu'effectivement, je retrouve une fluorescence verte prononcée dans ces trichomes, un petit peu compliqués, au niveau de la surface foliaire. L'autre exemple, par exemple, sur un embryon d'Arabidopsis, je peux voir que le promoteur que j'étudie ici, dans ce cas-là, confère une expression spécifique au niveau de l'embryon, dans la partie centrale de l'embryon, c'est-à-dire dans la partie active. On peut voir aussi, exactement de la même façon, sur des tissus d'embryons en germination d'Arabidopsis, que l'expression du promoteur peut être vraiment conférée à des endroits particuliers. Donc vous voyez, je vous ai présenté la trois outils fondamentaux, c'est-à-dire pouvoir déterminer la fonction biologique d'une protéine, pouvoir déterminer sa localisation et pouvoir déterminer la régulation de l'expression du gène qui code pour cette protéine. On peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin. Je vais passer un petit peu plus vite. Ah, là par contre j'ai un problème. Là, j'ai un problème de diapo qui ne sort pas. Il y a un transfert de Macintosh à PC qui ne veut pas se faire.
Oui, on t'avait prévenu.
Et pourtant, j'avais testé. Mais... Donc, si on veut regarder la régulation fine d'un promoteur, et bien exactement comme j'ai fait tout à l'heure, donc je vais reprendre l'autre diapo. En fait, ce que je peux faire, c'est que mon promoteur, je vais le couper en petits morceaux élémentaires et faire exactement la même transformation et remettre ça dans des plantes et donc étudier l'implication de chaque morceau sur l'expression de mon gène, d'accord, et donc en découpant petit à petit comme ça je vais pouvoir déterminer,
pense à conclure,
d'accord, s'il te plaît. les zones importantes. Donc je vais conclure. Donc à travers cette présentation, je pense que vous avez montré que les potentialités des technologies OGM en recherche fondamentale sont vraiment grandes. Hein. Ce sont des outils déterminants pour toutes les fonctions biologiques que je viens de vous montrer. Pour argumenter un petit peu par rapport à ce qui a été dit ce matin, je dirais que le rapport bénéfice-risque potentiel doit être traité au cas par cas, mais dans le cas de la recherche fondamentale, le problème se pose beaucoup moins puisqu'on va avoir affaire à des OGM strictement contrôlés en atmosphère confinée, hein, soit dans des serres classées S2, soit dans des laboratoires classés L2 pour les plantes. Et puis, pour argumenter un petit peu, je vous laisse lire la dernière phrase que j'ai mise, qui me paraît importante, qui est une citation qui me tient à cœur, hein, c'est qu'un OGM, il doit être jugé pour ses qualités intrinsèques, hein, voire ses risques, hein, potentiels, hein, oui, également, et non pas par rapport à son origine génétique. Je vous remercie.
Merci Pierre. Donc je vous propose d'envisager les questions à la fin de la série, oui. Et puis éventuellement d'aller vers le débat aussi qui aura lieu un peu plus tard. Alors pendant la transition, juste quelques mots pour vous dire que vous allez pouvoir constater, et d'ailleurs Pierre l'a montré puisqu'il a même présenté des résultats sur souris, que les mêmes outils sont utilisables pratiquement sur tous les organismes. Et aujourd'hui d'ailleurs, et c'est peut-être une toile de fond importante, un certain nombre de barrières devraient tomber complètement officiellement au niveau des disciplines de recherche de la biologie, puisque chacun est encore ancré à sa propre discipline, de manière à avoir vraiment une grande discipline qui est la biologie et qui utilise les mêmes outils. Alors Bruno Constantin, qui est chargé de recherche et qui travaille aussi dans une unité mixte à l'Université de Poitiers, va illustrer des applications au niveau cellulaire, notamment.
Voilà, donc maintenant, moi, je vais essayer de vous montrer que ce que l'on fait avec les plantes, on le fait également avec les cellules animales en culture. Et vous verrez ensuite qu'on peut le faire avec des animaux entiers aussi, avec Mohamed Jaber. Donc d'abord, en recherche fondamentale, donc sur les cellules animales, de la même façon que pour les plantes, nous avons été confrontés à la découverte de nouveaux gènes, donc de nouvelles séquences d'ADN. Ici, vous avez la séquence, une petite partie de la séquence de l'ADN qui code pour la dystrophine. C'est un gène qui a été découvert en 1986. Donc, code ensuite pour une protéine qui est inconnue, forcément. Donc, de la même manière, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de trouver la fonction de la protéine codée par ce nouveau gène? Eh bien, on pouvait utiliser des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Eh bien, ces OGM, soit on prenait des cellules qui ne possédaient pas cette protéine nouvelle, qui ne l'avaient jamais connue, et on force cette protéine nouvelle à être exprimée dans la cellule. Ou alors on peut faire, comme tout à l'heure on vous l'a expliqué, on peut éteindre la production de la protéine dans une cellule qui l'exprimait, grâce par exemple aux ARN interférents. Alors, je vais illustrer surtout le premier propos, c'est-à-dire production d'une protéine dans une cellule qui ne l'exprime pas. Donc là aussi, on bénéficie des techniques de l'ADN recombinant. On insère le gène d'intérêt qu'on veut exprimer dans un plasmide, donc un ADN circulaire d'origine bactérienne. Et on va procéder donc ensuite à une mise en culture des cellules que l'on veut transformer. Et ces cellules, on va les transformer donc en introduisant des plasmides dans les cellules en culture. On va introduire ce plasmide soit par des biais chimiques, soit par des moyens électriques aussi. Donc vous allez avoir tout un tas d'ADN circulant qui vont ensuite, grâce à le fameux promoteur, les fameux interrupteurs dont on vous a parlé, qui vont produire cette nouvelle protéine dans le cytoplasme ou ailleurs dans la cellule. Donc, et c'est cette production donc d'une nouvelle protéine qui va conférer des modifications à la cellule et donc donner des indications à la fonction de cette nouvelle protéine. Par exemple, si cette protéine ici avait été un oncogène, eh bien on aurait transformé ces cellules en cellules cancéreuses. A l'inverse, si cette protéine avait été un suppresseur de tumeurs, eh bien si on avait fait exprimer cette protéine dans des cellules cancéreuses, on empêcherait ces cellules de former des tumeurs chez l'animal. Voilà, donc ça c'est un exemple général, donc qui permet vraiment d'avoir des idées sur la fonction d'un gène qui au départ était une succession de lettres, qui codait pour une protéine dont on avait une structure, mais dont on ne savait pas à quoi elle pouvait servir, quel était cet outil moléculaire pour la cellule en culture. Donc on l'utilise à ce moment-là pour faire de l'expression dans une cellule qui n'exprimait pas cette protéine. On peut aussi l'utiliser pour surexprimer la protéine dans des cellules. Donc la protéine est déjà présente, mais on peut élever la concentration de cette protéine dans la cellule de façon à avoir aussi ce que l'on perturbe comme fonction. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait marquer les cellules aussi avec une étiquette, donc une protéine qui rend la protéine fluorescente, la protéine d'intérêt fluorescente. Donc ça sert effectivement à rendre cette protéine visible grâce à des microscopes de fluorescence. Vous voyez ici une cellule qui a été transformée avec cette protéine GFP. Donc, et on peut comme ça étudier donc la localisation de ces protéines dans la cellule. Est-ce qu'elle va s'associer plutôt au noyau ? Est-ce qu'elle va s'associer à la charpente cellulaire ? Est-ce qu'elle va aller dans des sacs à l'intérieur de ces cellules ? Est-ce qu'elle va plutôt aller à la périphérie ? Et ça pourra donner aussi des indications sur la fonction de cette protéine. L'avantage de cette GFP que l'on peut accoler à la nouvelle protéine donc, que l'on exprime, eh bien, c'est que c'est une protéine qu'on peut regarder visuellement sur des protéines, sur des cellules vivantes en culture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un enregistrement vidéo qui enregistrera la fluorescence et on pourra voir donc l'évolution de cette protéine dans la cellule au cours du temps, pendant que la cellule fait quelque chose. Alors, l'illustration que j'ai ici, par exemple, c'est une cellule de la peau qui se déplace. Les cellules de la peau sont amenées à se déplacer notamment pour réparer des blessures. Il y a aussi certaines cellules qui sont amenées à se déplacer pour des cellules immunitaires pour aller sur un lieu d'infection. Eh bien, elles ont été transformées avec des protéines donc, dont on voulait connaître la fonction lors du déplacement, de la locomotion de ces cellules. Et donc, les protéines, vous allez les voir, donc, ce sont des petits points blancs que vous allez voir évoluer au cours du déplacement de ces cellules. Donc la cellule se déplace dans ce sens. Et vous voyez tous ces petits points blancs, ce sont les protéines exprimées avec la protéine GFP qui permet de voir l'évolution et le déplacement de cette protéine au cours du déplacement de la cellule. Donc on voit qu'elle vient ici, par exemple, dans ces lamelles, ici, qui servent à la cellule à sentir son environnement pour savoir vers où elle doit aller. Je le fais rejouer un petit peu. Voilà. Là, vous avez des petits points, en fait, ce sont des points d'adhérence. Les cellules utilisent ces protéines pour s'accrocher à leur substrat et pour pouvoir bouger. Ici, vous avez plutôt des protéines de signalisation qui vont venir réguler, en fait, des câbles. Voilà les câbles qui servent à la cellule à se contracter et à bouger vers l'avant. Donc c'est aussi un grand pas pour la biologie cellulaire, parce que ça a permis de voir in vivo dans des cellules, au cours du temps, pendant une activité, pendant une action cellulaire, à quoi pouvaient servir et où allaient ces protéines. Ensuite, ces transformations de cellules en culture peuvent aussi servir à la recherche pour la thérapie génique, dans le cas, par exemple, d'introduction d'un gène médicament. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'introduire ce gène médicament dans un vecteur qui est pseudo-viral, donc on va dire un virus reconstitué. Le gène médicament donc est introduit à l'intérieur de ce pseudo-virus qui va servir de vaisseau. Et le virus va ensuite être utilisé pour infecter les cellules malades. Donc à ce moment-là, quand le virus va venir et infecter les cellules, il va y avoir des séquences dans ce virus qui vont permettre d'intégrer le gène médicament à l'intérieur du génome nucléaire dans le noyau de la cellule malade. Donc ça, ce sont des tests qu'il faut d'abord faire, évidemment, sur des cellules en culture pour savoir si ça peut fonctionner avant de passer à l'animal et à l'homme. Donc ce sont des tests qui ont été largement effectués déjà dans les années 90 et 2000. Donc je vais vous donner un exemple du laboratoire. Donc ici, le défaut génétique, donc, c'est une absence de l'expression d'une protéine qui s'appelle la dystrophine et qui est la cause d'une maladie, d'une myopathie, la maladie musculaire de Duchenne. Donc ces cellules, on peut les transformer, donc les infecter avec un virus qui va porter le gène de la dystrophine. Donc on va infecter les cellules. Et à ce moment-là, le gène thérapeutique, le gène de la dystrophine, va être introduit, grâce à ces petits vaisseaux viraux, dans les noyaux de la cellule musculaire. La cellule musculaire a plusieurs noyaux. C'est une des particularités de la cellule musculaire. C'est une cellule géante qui a plusieurs noyaux. Et donc, à ce moment-là, grâce à cette transgénèse, eh bien, on va obtenir l'expression de la dystrophine dans la cellule qui était malade. La dystrophine se trouve ici marquée en rouge. Elle se trouve sous la membrane de la cellule musculaire, elle fait le pourtour de cette cellule. Et donc on peut ensuite analyser l'amélioration de l'état physiologique de cette cellule grâce à la récupération du gène. Donc ce qui se fait en culture peut se faire également sur des animaux. Il existe donc une souris, une petite souris qui a été découverte en 1984, une souris myopathe, la souris MDX. Eh bien, cette souris donc a aussi le même défaut. Ses cellules musculaires n'ont pas de dystrophine et de ce fait, elle meurt. Elle meurt et elle laisse la place à du tissu fibreux et adipeux, ce qui fait que le muscle perd de la force et qu'il y a donc une perte importante de la masse musculaire. Donc, de la même manière, on peut introduire le gène thérapeutique dans un vecteur viral, injecter soit dans les muscles, soit via une voie intraveineuse, virus chez l'animal, de façon ensuite à ce que la dystrophine soit exprimée dans les muscles. Ici, la dystrophine est représentée en jaune, elle fait le tour des fibres musculaires. Et à ce moment-là, donc, on récupère la survie de ces cellules musculaires génétiquement modifiées. Donc on en est là sur ce point. On peut essayer aussi ce genre de thérapie chez d'autres modèles animaux. Par exemple, dans la dystrophie musculaire, on essaie ce genre de thérapie sur des chiens myopathes, le Golden Retriever. Et maintenant, évidemment, le but ultime, c'est d'arriver à l'appliquer chez l'homme. Alors qu'on va faire un petit peu de science-fiction, parce que c'est pour cela, pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce point. Donc là, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on essaie d'imaginer, c'est prendre à partir de la jambe d'un patient, par exemple, des cellules satellites. Ce sont des petites cellules qui sont en réserve dans le muscle et qui servent normalement à réparer le muscle lorsqu'on a un traumatisme musculaire, par exemple une déchirure ou quelque chose comme ça. Donc des cellules multipotentes en réserve qui sont tout le long des muscles, que l'on peut donc récupérer, isoler et mettre en culture. Ensuite, ces cellules, eh bien, avec le vecteur viral et qui portera le gène médicament, on peut les transformer en culture et donc les forcer à exprimer le gène de la dystrophine. Donc on va attendre que ces cellules se multiplient, qu'elles soient suffisamment nombreuses, les amplifier pour en avoir suffisamment et les réintroduire au malade chez qui on a pris les cellules. Donc on a transformé génétiquement les cellules du malade de façon à ce qu'elles expriment à nouveau la dystrophine. Donc dans ce cas, ce qui devrait se passer, c'est que les cellules satellites donc transformées, portant le gène médicament, vont venir s'accoler à la cellule malade et vont venir fusionner pour apporter leur noyau à la cellule malade et donc apporter le gène médicament. Dans ce cas-là, donc, on aurait une dystrophine exprimée. Voilà, je vais laisser la place maintenant pour le cerveau et les souris.
Merci. Donc vous voyez qu'on a eu encore là une autre illustration, mais qui vous montre aussi que l'on passe de la cellule à l'organisme entier en permanence. Hein. Il est difficile de discerner les deux approches. Et donc là, Mohamed Jaber, qui est aussi professeur, donc enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers, va illustrer le troisième et dernier aspect que l'on a choisi aujourd'hui, sachant qu'évidemment, il y en aurait bien d'autres à évoquer à tous les niveaux, depuis la bactérie jusqu'aux organismes les plus évolués. Mohamed, c'est à toi.
Merci. Bonjour. Donc, le sujet de ma petite intervention, ce serait l'utilisation d'animaux transgéniques en recherche fondamentale. Et je prendrai comme exemple les neurosciences, puisque c'est un domaine que je connais particulièrement. Et je vais illustrer mon propos avec notamment trois animaux transgéniques que nous avons d'une part créés ou d'autre part utilisés, et l'utilisation et l'application de ces animaux transgéniques en recherche fondamentale. Donc il ne s'agit pas, je le dis tout de suite en entrée de ma présentation, il ne s'agit pas de créer des animaux transgéniques pour une utilisation en agriculture ou en alimentation quelconque. Il s'agit de créer des animaux transgéniques pour comprendre, dans les exemples que je vais vous montrer, le fonctionnement du cerveau. Alors pourquoi on utilise des modèles animaux? Parce que j'aime bien, a priori, répondre déjà à des questions que certains d'entre vous peuvent se poser. Chez les animaux, on peut créer des symptômes, des lésions, des pathologies, des maladies qui sont proches de ceux qu'on observe chez l'homme malade. Donc ça nous sert de modèle de pathologie humaine. On peut bien entendu faire des modélisations informatiques, on peut bien entendu faire des études en culture cellulaire, comme l'a montré en partie mon collègue, mais avant d'espérer passer à une application chez l'homme, on est obligé de travailler sur un organisme entier, parce qu'un logiciel informatique, parce que des cellules en culture, bien qu'elles soient extrêmement intéressantes et importantes dans un premier temps, ne peuvent pas remplacer la réaction d'un organisme entier à l'introduction d'une molécule pharmacologique ou bien à une manipulation chirurgicale. Donc c'est absolument indispensable. Sinon, si tout le monde est d'accord, on peut passer tout de suite de l'essai en culture cellulaire à la thérapie chez l'homme et il ne faut pas après s'étonner d'une forte mortalité lors des essais. Un peu polémique, mais on est là pour ça. Les animaux, pour la plupart, sont faciles à élever. Ils sont simples, à savoir par exemple le ver qu'on utilise en recherche, la mouche, sont des organismes extrêmement simples. On connaît très très bien leur anatomie, leur génome, l'organisation de la cellule. Et pour plusieurs espèces, on connaît même le nombre de neurones et même leur place exacte au sein de l'espèce. Ce qui a valu d'ailleurs à plusieurs chercheurs, par exemple, d'obtenir le prix Nobel parce qu'il a travaillé sur un mollusque et qu'il a disséqué chez le mollusque la mémoire. Ça peut vous paraître complètement bizarre, mais il a montré les bases cellulaires et les moléculaires des capacités mnésiques d'un mollusque, ce qui lui a valu le prix Nobel en 2000. Donc, c'est des organismes extrêmement simples. Ils sont bon marché. Pas tellement, parce que je dois dire quand même qu'une souris sur laquelle on travaille coûte aussi cher qu'un poulet fermier. Donc, ils ne sont pas si bon marché que ça. J'aillère un peu le débat. En plus, leur cycle de vie est relativement court. Sachez par exemple qu'une souris vit 2 à 3 ans, en captivité plutôt 1 an et demi, ce qui nous permet de faire un peu de génétique générationnelle. Bon, c'est toujours un peu long, ça serait plus simple, bien plus simple chez la mouche, qui a une durée de vie de quelques jours, et encore plus simple de faire de la génétique et de transmission chez des vers. Alors, dans la recherche, on utilise deux types de modèles animaux. Des modèles dits spontanés, ce sont des animaux qui existent, qu'on utilise pour créer chez cet animal des pathologies qu'on a chez l'homme et faire des essais thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle les modèles spontanés. C'est-à-dire qu'on ne les manipule pas autrement que pour mimer une pathologie. Et les modèles qu'on peut appeler induits, et notamment transgéniques, ce sont non pas des espèces, mais des races qui n'existent pas dans la nature et qui sont créées par les chercheurs pour, entre autres, les nombreuses raisons qu'a montré mon collègue en physiologie végétale, pour les mêmes raisons. Comprendre le fonctionnement, inhiber l'expression d'une protéine, comprendre comment fonctionne un gène, le rôle d'une cellule, etc. Et bien entendu, dans un deuxième temps, des essais thérapeutiques pour les animaux qui sont des modèles de certaines pathologies. Donc on peut étudier de façon contrôlée la progression de la maladie chez l'animal, analyser la physiopathologie, les causes et les conséquences, bien entendu beaucoup plus facilement qu'on le ferait chez l'homme, étudier les différentes pistes étiologiques, à savoir les origines, pourquoi cette maladie existe, quelle est la cause de la maladie. Et on peut être sur des pistes d'après des études épidémiologiques, maladies dues à l'environnement, maladies dues aux gènes. Et on peut bien entendu, comme je l'ai dit, tester des molécules susceptibles de devenir des médicaments par le biais de ce qu'on appelle dans notre jargon des études précliniques effectuées chez l'animal malade qu'on essaie de guérir. C'est pour ça que ma fille pense que mon travail, c'est « je suis le médecin des souris ». Je suis très content que c'est la chose qu'elle a compris de ce que nous faisons, parce que ce n'est pas tout à fait faux non plus. Alors, je vais vous montrer trois exemples. Premièrement, des souris qui sont hyperactives, que nous avons créées, et il semblerait que ce soit des bons modèles d'un trouble qu'on trouve chez l'enfant et qui, aux États-Unis, est diagnostiqué chez 5 à 6% des enfants scolarisés, qui est le trouble déficitaire de l'attention accompagné d'hyperactivité. Ce trouble est caractérisé par sa définition, à savoir ce sont des enfants qui sont extrêmement agités et qui ont des problèmes de concentration. Nous avons eu des pistes de par la recherche sur la molécule qui pourrait jouer un rôle dans ce trouble-là, quoique ce trouble, bien entendu, puisse avoir des origines sociales et psychologiques que nous n'ignorons pas, mais il y aurait une partie génétique aussi. Parmi les molécules pistes qui pouvaient être intéressantes, c'est le transporteur à dopamine. C'est une molécule qui est présente, une protéine, pour parler plus clairement, qui est présente à la surface d'un neurone, qui est symbolisé ici par le trait noir, et dont le rôle, la fonction, c'est de recapter les molécules de transmission utilisées par les cellules pour communiquer. C'est-à-dire que les neurones communiquent par les petits points rouges qu'un neurone libère vers l'autre, et le rôle de cette protéine, c'est de récupérer la molécule libérée pour la recycler, pour la réutiliser. Cette protéine-là, nous l'avons inactivée. Le processus technique est relativement complexe, ça nous a pris 3 ans. Donc nous avons créé des souris transgéniques qui n'ont pas cette protéine de recapture. Alors pourquoi nous l'avons fait ? Pour essayer de mimer effectivement le trouble déficitaire de l'attention accompagné d'hyperactivité chez l'animal. D'autre part, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, cette protéine serait impliquée aussi dans la réponse aux drogues, puisque la majeure partie des drogues, telles que la cocaïne et l'amphétamine abusées par l'homme, bloque cette molécule-là. Et troisièmement, il semblerait que cette protéine aussi soit impliquée dans une autre pathologie qui est la maladie de Parkinson. Alors, ça vous semblerait très bizarre de citer 3 pathologies majeures chez l'homme qui sont la dépendance, le Parkinson et les troubles de l'activité liées à une seule protéine. Je comprendrai cette réserve. Sauf qu'il semblerait que ces 3 pathologies touchent le même système de transmission qui est le système à dopamine. Ce sont des neurones dans le cerveau qui sont très particuliers, en très faible nombre, qui synthétisent une molécule qui s'appelle la dopamine. Et ces neurones à dopamine, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans de nombreuses pathologies. Bref, nous avons fabriqué ces souris qui n'ont pas le transporteur membranaire à dopamine. Et nous avons montré que ces souris-là, c'est une photo qui, en laissant l'obturateur ouvert longtemps, par rapport à des souris normales juste à côté, mais ces souris sont extrêmement hyperactives. Donc ça nous a servi, on est passé à modeler cette hyperactivité chez la souris, et à tester des molécules qui pourraient contrer cette hyperactivité, ce qui nous a mis sur une piste d'une famille d'antidépresseurs qui peut être utile pour le traitement de l'hyperactivité et des troubles de l'attention. Je ne vais pas abuser de votre temps. On va passer au deuxième modèle. Les souris qu'on peut dire non stressables, GR-. Et ça a été fait avec mes collègues du Collège de France. Donc, nous avons fabriqué des souris qui manquent d'une autre protéine, qui est la protéine GR, pour récepteur aux glucocorticoïdes. Alors, c'est quoi ces glucocorticoïdes ? Quand on est stressé, ça, tout le monde est passé plus ou moins quotidiennement par cette phase, la surrénale va sécréter une hormone, l'hormone du stress, qui sont les glucocorticoïdes. Et ces hormones de stress libérées donc dans la situation de stress se fixent sur des récepteurs très spécifiques, se fixent sur des molécules à l'intérieur de l'organisme qui sont les récepteurs aux glucocorticoïdes, les récepteurs des hormones du stress. Nos recherches et les recherches d'autres collègues ont montré que le stress est un facteur déterminant dans la vulnérabilité individuelle aux agressions extérieures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans le jargon de tous les jours, quand on est stressé, on est plus vulnérable à faire des bêtises et à compenser ce stress par des activités qui peuvent être délétères pour l'organisme. Et notamment, nous avons montré que des animaux stressés ont plus que tendance, consomment beaucoup plus de drogues d'abus, c'est le sujet de notre recherche, vous l'avez compris, telles que la cocaïne, la morphine et l'héroïne, que des souris et des rats non stressés. Nous avons montré que ceci se fait par le biais d'activation de ces récepteurs glucocorticoïdes, ce qui nous a amené à créer des souris transgéniques non stressables, sans récepteurs glucocorticoïdes, des souris zen. Et ces souris-là, même si vous les mettez dans un environnement extrêmement stressant, elles ne prennent pas de drogue. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, vos souris qui prennent des drogues. Normalement, elles ne le font pas. Elles le font très, très bien. Une souris à qui on a appris de faire une action pour recevoir une récompense telle que la nourriture apprend très vite qu'en faisant cette action, elle va avoir de la nourriture, elle va avoir de l'eau, elle aura du sucre, elle aura de la drogue. Et une fois qu'elle a reçu la drogue une, deux ou trois fois, elle va très vite apprendre que l'action qu'elle fera, appuyer sur une pédale par exemple, ou mettre le museau dans un trou, aura comme conséquence une prise de drogue. Et je ne suis pas là pour faire l'apologie des drogues, mais si les drogues ne créaient pas un sentiment de bien-être momentané, les gens n'en prendraient pas. La prise de drogue chez la souris lui cause un sentiment de bien-être momentané. Si vous mettez la drogue à disposition, elle va en prendre. Elle en prendra beaucoup. Certains prendront la drogue au détriment du sommeil et de la nourriture jusqu'à l'épuisement. Des souris non stressables ne prennent pas de drogue. Du tout. Et c'est ce que vous voyez ici sur la courbe. Ça, ce sont des animaux stressés et des animaux non stressés et le nombre de fois qu'elles prennent la drogue l'une par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas une courbe très difficile à voir. Donc, nous avons montré ici que par la diapositive d'avant et par celle-là, que nous ne sommes pas tous égaux face aux agressions extérieures, de par notre bagage génétique, ce que nous héritons de nos parents, mais de par aussi l'environnement dans lequel on gravite. Alors on arrive aux souris vertes, très rapidement. C'est le troisième exemple et le dernier que je vais présenter. Ce sont des souris qui ont été créées par des collègues japonais que nous avons utilisées dernièrement à Poitiers, pour nos travaux de recherche que je vais vous exposer très rapidement. Donc ce sont des souris qui sont fluorescentes au même titre que les plantes transgéniques qu'on vous a montrées tout à l'heure, au même titre que les cellules qu'on vous a montrées tout à l'heure. C'est exactement le même construit. Vous voyez ici un embryon de souris transgénique fluorescente verte par rapport à une souris qui ne l'est pas. Alors, bien entendu, je suis tout à fait conscient que c'est joué au docteur Frankenstein de créer des souris qui soient fluorescentes vertes. Qu'est-ce qui nous a pris de créer des souris fluorescentes ? Juste pour la petite histoire, avant de répondre à la question, la fluorescence vient d'une protéine qui normalement est exprimée chez la méduse, et c'est là l'application transgénique. On prend les gènes de la méduse qui expriment la protéine fluorescente et on l'introduit dans le génome des souris. On crée une espèce génétiquement modifiée qui n'existait pas dans la nature, sinon ça saurait, et qui sont les souris fluorescentes. Qu'est-ce qui nous a pris ? Qu'est-ce qui a pris les chercheurs de faire ça ? Vous allez voir, c'est un outil, comme on a vu tout à l'heure, qui est extrêmement fondamental et crucial pour comprendre de nombreuses fonctions. Alors nous, on l'a appliqué un peu différemment. On l'a appliqué pour faire des tests de greffe. Et vous allez tout de suite comprendre, parce que le but était très direct, il nous fallait savoir que deviennent les cellules qu'on greffe dans un cerveau lésé. Alors pourquoi on prend des souris, des greffes fluorescentes? Parce que pour la simple raison qu'il nous faut absolument distinguer ce qu'on greffe de ce qui existe déjà. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à une cellule nerveuse qu'une autre cellule nerveuse. Par contre, si vous greffez une cellule nerveuse verte fluorescente dans un organisme qui ne l'est pas, vous allez pouvoir la suivre à la trace. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris des embryons de souris vertes qu'on a disséqués. On a prélevé la région du cerveau de l'embryon de souris verte et on l'a greffé dans un cerveau adulte de souris qui a été lésé pour mimer une pathologie chez l'homme qui a comme origine la destruction d'une partie du cortex. Et c'est ainsi qu'on a pu montrer que dans certaines conditions très précises que nous avons décrites, on peut restaurer les voies nerveuses qui sont endommagées. Vous voyez ici les résultats du greffe dans un cerveau qui n'est pas vert, et vous voyez beaucoup de fluorescence, parce que les cellules que nous avons greffées vont émettre ce qu'on appelle des axones, des prolongements, vont arroser le cerveau lésé pour restaurer les fonctions qui ont été détruites par la lésion. Donc nous avons montré, grâce à des souris vertes, que nous sommes capables, chez la souris, de restaurer les voies qui ont été dégénérées. Donc pour parler, pour faire un peu de l'autopromotion à Poitiers, les neurosciences, au sein de l'équipe que je dirige, on a une approche verticale de nos recherches. Ça va du comportement animal à la neuroanatomie, à la culture de cellules souches jusqu'à la molécule. Je termine sur cette diapositive qui n'est pas du tout anodine pour vous expliquer que la majeure partie de nos recherches n'est pas financée par l'argent public, mais est financée par l'argent d'associations et de fondations de recherche. En ce qui concerne mon équipe, c'est 20% l'argent public, vos impôts, et 80% associations et fondations de malades. Je rebondis tout de suite ce que m'a montré mon collègue en début de la table ronde. On vous a montré ces fleurs de pétunia, il me semble, c'est ça. Et grâce à la recherche qui a été effectuée sur ces fleurs, on a pu découvrir un continent nouveau d'expression de gènes, les siRNA, qui ont d'ailleurs valu à leur découvreur en 2006 le prix Nobel. Je peux vous garantir, vous certifier qu'aujourd'hui, vous déposerez un projet de recherche sur pétunia et comprendre les mécanismes de coloration des fleurs, vous aurez très probablement de grosses difficultés à vous faire financer vos travaux, que ce soit par l'argent public ou que ce soit par l'argent privé. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'un de nos ministres nous a critiqué il y a quelques années en disant « on fait de la recherche en France et aux États-Unis, on a le prix Nobel ». Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut donner les moyens aux chercheurs pour faire leur travail correctement. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir tenu vos temps de parole. Et puis, je voudrais aussi vous remercier pour la qualité artistique de tout ce que vous avez présenté. J'ai le souvenir d'avoir eu un débat il y a peut-être 15 ans ici, face à un représentant de la DRAC, justement où je disais que les chercheurs étaient des artistes, et là vous en avez une parfaite illustration. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez présenté. Et puis en plus, vous avez vu des messages qui sont passés, qui sont.
Messages subliminaux.
Qui sont, non, qui sont bien exprimés, je crois, et qui sont véritables. Donc on a le temps pour un certain nombre de questions, puisqu'on a respecté notre horaire. Si vous le souhaitez. Le micro ne marche pas.
Normalement, il est censé marcher. Oui, donc dit comme ça, ça a l'air très simple de fabriquer une souris transgénique, mais ça l'est beaucoup moins. Combien de temps est-ce que ça prend?
Pour la première souris transgénique, ça nous a pris 3 ans. Je pense qu'on est plutôt autour de 2 ans, 1 an et demi quand ça fonctionne bien. Et le coût de fabrication d'une souris transgénique est aux alentours de 100 000 euros. Avec une possibilité d'échec qui n'est pas négligeable.
Ah oui. Et toujours pour donner un ordre de grandeur, les premières
C'est vrai qu'on parle beaucoup de plantes transgéniques. D'ailleurs, dans ces deux journées, vous allez dénombrer les quelques plantes qui sont utilisées. On parle beaucoup moins d'animaux transgéniques parce qu'elles ne sont pas disséminées, parce qu'elles sont confinées dans les laboratoires, qu'elles ne sont pas commercialisées, qu'elles ne sont pas à but ni alimentation, ni quoi que ce soit d'autre que de la recherche fondamentale. On en parle au moins, mais il y en a plusieurs centaines.
Et pour rebondir à ce qui a été dit ce matin, elles sont soumises à l'autorisation par la commission du génie génétique. D'accord, on fait un dossier pour pouvoir générer ces animaux ou même faire des cellules en culture génétiquement modifiées ou des plantes. Tout ça, c'est régulé par cette commission.
C'est même tellement régulé que c'est limite handicapant. Mais c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler dans la légalité au niveau...
Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions ?
Juste pour rebondir, pour donner un ordre de grandeur... Un Arabidopsis transgénique, c'est un mois et demi pour l'obtenir.
On parle d'effet de résistance naturelle, maladie.
On parle de résistance naturelle d'une maladie suite à un traitement. Le traitement n'est plus efficace pour les plantes. Est-ce qu'au niveau des animaux, vous avez remarqué que malgré vos transplantations, la recherche dans laquelle vous êtes parti, il y a déjà les cellules que vous avez voulu traiter se sont déjà défendues et ont contourné ce que vous aviez voulu obtenir. Je sais pas si je me fais...
Ce qui est vrai, c'est que quand on crée une pathologie déjà sans faire de la transgénèse, quand on crée une pathologie chez l'animal, et je vais parler de ce que je connais le mieux de pathologie du système nerveux, le cerveau va s'adapter. Si on est là aujourd'hui avec l'évolution que l'être humain a eue, le langage, la communication, c'est parce qu'on est capable d'adaptation de manière assez phénoménale. Mais le cerveau s'adapte aussi aux pathologies et il s'adapte aussi aux traitements pharmacologiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par exemple, dans la maladie de Parkinson, il y a la lune de miel avec le traitement pharmacologique à l'ALDOPA qui dure quelques années, 2 à 5 ans, et que cette lune de miel s'estompe. Donc, il y a une adaptation de l'organisme à une pathologie et un traitement pharmacologique. Maintenant, est-ce que les cellules qu'on transplante s'adaptent dans le mauvais sens, c'est ça ? Ça veut dire, pas à ma connaissance. Ce qui se passe, c'est qu'elles s'adaptent bien entendu à leur environnement pour bien s'intégrer, ou elles ne s'adaptent pas et elles disparaissent. Mais la manipulation du génome qui a été effectuée ne se perd pas.
Bruno a peut-être aussi un complément.
Par rapport, par exemple, on n'en a pas trop parlé là, mais aux souris knock-out. Alors, les souris knockout, ce sont des souris chez lesquelles on a éteint l'expression d'un gène dans le tissu où on voulait que ce gène s'éteigne ou partout, dans tous les tissus. Et donc, souvent, on se rend compte, lorsqu'on promeut l'extinction d'un gène, que ces souris vont effectivement s'adapter, mais s'adapter génétiquement, c'est-à-dire qu'elles vont sous-réguler d'autres gènes et sur-réguler d'autres gènes, qui vont peut-être lui permettre justement de s'adapter physiologiquement à l'extinction du gène. Ce qui fait que des fois, d'ailleurs, l'extinction du gène ne suffit pas à savoir à répondre à la question quelle est sa fonction, parce que du coup, elle va remplacer la protéine manquante par une autre qui va faire à peu près la même fonction. Donc il y a effectivement des problèmes d'adaptation. Et pour la thérapie génique, il y a quand même aussi des questions sur la stabilité de la transgénèse. Au cours de la vie d'un homme, de savoir si on va garder le gène médicament tout le long de la vie.
Oui, on peut même compléter par d'autres problèmes, puisque dans la thérapie génique, on va dire qu'en gros, techniquement, un certain nombre de problèmes ont été résolus. Mais tu évoquais l'utilisation de virus atténués, et derrière, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes immunologiques de rejet, du fait qu'il faut retraiter les personnes, enfin, ou même les animaux. Et donc, on aboutit finalement à des réactions qu'on va qualifier de secondaires, mais qui sont extrêmement importantes et qui vont venir empêcher l'application. Alors, on a des outils performants, mais pas forcément des applications. Et je pense que l'erreur fondamentale qui a été faite dans la communication, cette fois-ci, il y a une dizaine d'années, c'était de penser qu'à partir du moment où on maîtrisait un certain nombre d'outils, eh bien, on aurait des applications très rapides. Et je pense que là, il faut quand même donner du temps au temps et ne pas donner des échelles pour ne pas donner des espoirs fous aux gens qui souffrent notamment et qui ont des maladies de ce type-là.
Juste pour compléter, par rapport justement à ce problème de virus qui induit une réponse immunitaire, il y a tout un pan de recherche à ce moment-là qui travaille sur la vectorisation. Et notamment, on peut chercher des virus furtifs qui vont essayer d'échapper au système immunitaire de façon à pouvoir délivrer le gène médicament.
Peut-être juste une précision.
Une dernière, oui. Peut-être, dernière question, puisqu'on est arrivé au bout.
Moi, c'était plutôt pour peut-être éventuellement préciser qu'on a évoqué ce matin le rôle de la CGB dans l'évaluation des risques. La CGB a aussi pour rôle d'évaluer les impacts sanitaires et les risques que font encourir tel ou tel protocole de thérapie génique. Donc c'était une structure qui était multifacette, disons, quant aux risques que peuvent faire ou non courir la transgénèse.
Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
Et donc maintenant, nous allons passer à notre orateur suivant. Bruno Dumas, qui lui va nous parler de fabrication de médicaments. Bruno Dumas, qui est chercheur chez Sanofi Aventis à Vitry-sur-Seine, et qui donc va avoir très exactement une demi-heure.
Voilà. Donc moi, je vais parler de ce qu'on appelle la recherche plus appliquée.
Dans l'ordre.
Moi je travaille pour Sanofi Aventis depuis plusieurs dizaines d'années. Sanofi Aventis, je pense que tout le monde connaît. C'est le.
Oui. Je pense que tout le monde connaît Sanofi Aventis. C'est le troisième pharmacien du monde, deuxième investisseur en R&D en France après EADS. Donc c'est une grosse entreprise. C'est la fusion de multiples entreprises françaises dont tout le monde connaît le nom, Roussel-Luclas, Fraune-Poulenc et d'autres qui ont disparu dans toutes ces fusions. Donc je vais vous présenter ce qu'on a essayé de faire avec ce qu'on appelle des micro-organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire essayer en pratique d'en faire quelque chose qui soit utile. Je vais présenter ça un peu sous forme d'une lutte entre deux organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire Escherichia coli, donc la bactérie de l'intestin, et Saccharomyces cerevisiae, ce qu'on pourrait qualifier des MAC et des PC, les MAC étant cerevisiae et les PC étant Escherichia coli. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme avantage à faire des médicaments à partir d'organismes génétiquement modifiés? J'ai résumé un peu. J'ai donné quelques exemples. Donc le premier exemple qui est frappant, c'est l'hormone de croissance, qui a été d'abord fabriquée à partir de tissus humains, donc d'hypophyses humaines, et avec tous les problèmes qu'on connaît. À partir du moment où on l'a fabriquée à partir des Escherichia coli, tous ces problèmes ont disparu. Il y a l'EPO, donc, qui n'est pas seulement une drogue qu'on donne aux cyclistes, mais qu'on donne aussi aux personnes âgées, et qui est extrêmement efficace pour les retaper. Il y a aussi les vaccins contre l'hépatite, qui est là aussi un avantage, c'est qu'il y a certains vaccins qui sont faits à partir de virus atténués. Là, c'est ce vaccin-là qui est fabriqué dans Saccharomyces cerevisiae, donc la levure de boulanger. Et puis, il y a aussi certains médicaments. Donc, les avantages sont les suivants. C'est un milieu, en général, un milieu confiné dans lequel on donc maîtrisé, on sait ce qu'on fait, on est dans des fermenteurs. Les risques de contaminants indésirables sont diminués, voire nuls, puisqu'on travaille en général dans deux micro-organismes qui sont connus et qui sont déjà présents et utilisés par l'homme depuis des milliers d'années. C'est beaucoup plus simple, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Enfin, a priori, une fois, c'est pas aussi vrai. Et en fait, les produits qui sortent de ça, par exemple, si on prend l'hormone de croissance ou le vaccin contre l'hépatite B, sont des produits qui sont plus sûrs. Donc je vais vous donner un exemple pour exemplifier mon propos et puis pour aussi revenir à ce que M. Jaber disait au niveau de la recherche et du temps et des moyens. Donc c'est l'hydrocortisone. Je parle trop fort hein, c'est... Donc l'hydrocortisone, c'est une vieille molécule qui a été mise sur le marché en 1954, donc, qui a été fabriquée par Roussel-Luclaf en dizaines de tonnes. Qui est toujours fabriqué, le marché mondial est de l'ordre de 100 tonnes, donc c'est énorme, Quand on sait que l'activité de ces molécules ou des molécules dérivées, en fait, c'est autour de 0,5 mg kilo. Donc il y a une demande qui est tout en constante augmentation. C'est un très bon immunodépresseur et les molécules dérivées sont plus ou moins fortes. On peut avoir des molécules dérivées de l'hydrocortisone qui sont spécialisées dans l'immunodépression, par exemple, ou dans l'anti-inflammation du genou, de l'œil. Enfin, et les effets secondaires sont connus et maîtrisés, en tout cas mieux maîtrisés que certaines autres molécules. Donc, je vais vous parler du travail qu'on a réalisé pour essayer de simplifier la production de l'hydrocortisone. Donc, vous avez ici donc les différents nombres. En fait, ce qui est important dans ces synthèses et qui fait le coût, c'est le nombre d'étapes. Donc, moins il y a d'étapes, et moins c'est cher. Et plus il y a d'étapes, et plus c'est compliqué, plus c'est cher. Donc, vous voyez, dans une échelle de temps, c'est des choses anciennes, puisque je crois que le premier procédé de synthèse date des années 50, aussi à Roussel-Lucaf. Nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est un nouveau procédé de Sanofi-Aventis, en fait initié par Roussel-Lucaf, qui soit beaucoup plus simple. Et pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on le voit très bien sur la diapositive suivante. Ça, c'est le procédé donc, qui a été utilisé par Roussel au départ. Quand vous avez un procédé qui a 23 étapes, même si vous êtes à 90% de rendement, donc chaque réaction, chaque étape qui permet de faire le médicament à 90% de rendement, si vous partez 100 kg de matière première, vous arrivez à 8,9 kg. Donc, vous voyez, moins vous avez d'étapes, plus c'est facile. Il y a une première chose. Donc ça, c'était le procédé qui est utilisé par Roussel dans les années 90, qui partait de la bile de bœuf. Donc on avait des relations très étroites avec des abattoirs. Avec l'arrivée de la bâche folle et l'arrivée du fait qu'on s'est aperçu que de partir d'un matériel issu de mammifères, ça pouvait être dangereux. Donc on a été poussé à partir d'autres sources. Donc actuellement, il y a deux voies pour faire l'hydrocortisone. Il y a la voie qu'on utilise, qui est tous les deux à partir de stérols de plantes. Donc les stérols, c'est ces molécules compliquées qu'il y a ici avec quatre noyaux. Donc à partir de stérols de soja, en fait, qui sont des sous-produits de la culture du soja, donc qui sont peu chers, ou à partir d'une plante qui s'appelle, je sais plus, bon, voilà, j'ai oublié le nom, c'est pas très grave. Donc ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de faire un système beau. Donc là, le nombre d'étapes est pas connu, enfin, reste secrète, mais c'est disons moins de 10 étapes, mais ça reste trop. Il y a une pression énorme pour une raison simple que tout le monde connaît, c'est que l'euro est beaucoup plus cher que le dollar, que nous, on produit en euros et qu'on paye en dollars. Donc, il y a une pression pour faire moins cher. Et deuxièmement, il y a une autre pression, c'est que les pays émergents commencent eux aussi à faire de l'hydrocortisone de qualité qu'on appelle la qualité Roussel, donc le standard qui avait été fait par Roussel dans les années 50. Et donc, il y a une pression pour essayer de diminuer ces coûts. Donc, c'est là où on voit qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc, dans les années 92 exactement, Roussel, sur l'initiative de Roussel, on a monté une équipe avec le CNRS, donc à Gif-sur-Yvette, et avec Transgène, à l'époque une petite start-up, maintenant une vieille start-up, si on peut appeler ça comme ça. Et le but, c'était de trouver un système simple de faire de l'hydrocortisone. Donc, on est parti d'une idée simple, mais qui nous a pris une dizaine d'années à réaliser quand même. Donc, les idées, ça tient en une phrase, mais. Bon, là, c'est le petit. En fait, c'est ce que je disais, c'est toujours la guerre entre la levure et Escherichia coli. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis des milliers d'années, la levure, elle en a un peu marre. Elle fait du pain, de la bière, enfin, c'est. Et elle est devenue people. C'est-à-dire qu'elle veut qu'on parle d'elle et qu'on parle d'elle dans les journaux. Donc, et elle voudrait bien faire mieux qu'Escherichia coli, parce que Escherichia coli peut faire la même chose qu'elle fait. Donc. Et donc, toute la base de ce projet était là. Et c'est là qu'on lui a proposé, là, la petite levure est là, de faire ce projet assez ambitieux, qui part d'une idée assez simple. Donc, l'idée est que, en fait, Saccharomyces cerevisiae, elle fait dans ses membranes des molécules qu'on appelle l'ergostérol, en fait, qui sont des stérols, les mêmes, de la même famille que les stérols de plantes, donc des stérols de ce type. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hydrocortisone, qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de modifier Saccharomyces cerevisiae pour lui permettre de faire ça. L'idée paraît simple, enfin, mais elle est assez compliquée à réaliser. Donc on s'est basé en fait sur ce qui se passe naturellement chez nous. Bon, alors, naturellement dans la levure, par un procédé assez compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à partir de l'éthanol ou du glucose, elle est capable de faire cette molécule donc, à 27 carbones, à partir d'une molécule à 2 ou 6 carbones. Donc on a ça, et on a nos surrénales ici, chacun d'entre nous ici, qui fabrique tous les jours des tonnes d'hydrocortisone. Donc il y a un système dans les glandes surrénales qui est hyper efficace, précis et efficace, c'est-à-dire qu'il fait précisément la bonne quantité, non seulement d'hydrocortisone, mais d'autres hormones du même type. Monsieur Jabert avait parlé des glucocorticoïdes, mais les glucocorticoïdes sont dérivés de l'hydrocortisone, qui est aussi un glucocorticoïde. Et donc l'idée, c'était simple, c'était de transférer tout le matériel génétique qui permet aux glandes surrénales de faire, à partir du cholestérol, l'hydrocortisone, dans une levure. Donc déjà, là, il y a un petit challenge technique, parce qu'on va voir que le matériel génétique, il est assez compliqué. En plus, le deuxième challenge, c'est d'arriver à faire le pont entre les deux, c'est-à-dire à trouver une molécule qui soit fabriquée par la levure, qui puisse mimer le cholestérol naturel. Donc je me répète, ce n'est pas de mettre des glandes surrénales dans un fermenteur et puis de mettre une levure ensemble, en fait, c'est de mettre le matériel génétique qui permet de faire tout ça dans le même organisme. Donc on a commencé il y a 15 ans, en 92. Donc en 92, les connaissances sur la levure étaient déjà très avancées. La séquence du génome était en cours. Le premier génome qui a été séquencé de d'eucaryotes, c'est donc celui de la levure. Et donc, on pensait qu'on avait quand même les outils pour le faire, même si, au point de vue de connaissances fondamentales, on n'était pas tout à fait au point. Donc, je vais essayer de vous dire ce que ça veut dire de transférer une voie de biosynthèse donc en une phrase, qui nous a pris 10 ans. Donc, c'est donc pour dire que c'est pas le truc très simple. Donc là, vous avez en jaune ce que fait la levure, en vert ce que fait les mammifères. Donc vous avez les réactions, c'est-à-dire à chaque réaction correspond à du matériel génétique et une protéine. Donc vous avez les 6 réactions qui permettraient, entre guillemets, de passer de la levure et de transformer, d'humaniser une levure. Donc, et vous avez toutes les entités chimiques qui sont listées. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails exactement de ce qui a été fait, mais je vais vous expliquer un peu comment le principe de ce qu'on a utilisé. En fait, on a travaillé sur des levures qui faisaient individuellement chacune des réactions. Et puis ensuite, on a commencé à combiner les levures, c'est-à-dire à introduire d'abord un premier matériel génétique correspondant à la réaction 1, ensuite le matériel génétique correspondant à les réactions 2, et voir si on pouvait faire les réactions, et ainsi de suite. Et avec toutes les combinaisons qu'on peut imaginer et tous les problèmes qu'on peut imaginer. Là, la voie de biosynthèse, là, même si elle paraît compliquée, donc si chaque petit crobar chinois, là, ça paraît compliqué, c'est hyper simplifié parce qu'en fait, en réalité, chez l'homme, il y a plein de petits produits naturels qui sont absolument indispensables à la vie, dont le niveau est parfaitement régulé, qui sont aussi produits par le matériel génétique 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il a fallu se débarrasser de tout ça aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais Donc je me répète un peu. Alors qu'est-ce que c'est le génie génétique dans Saccharomyces cerevisiae ? Bon, il y a des choses qui étaient connues au départ et qui le sont devenues au cours de nos recherches qui ont duré assez longtemps. Donc on connaît le matériel génétique qui correspond à la réaction 1. On connaît le matériel génétique pour chacune des réactions. On peut, donc il est connu, isolé, séquencé. On peut amplifier ce matériel et le transformer dans la levure. On peut vérifier l'introduction de ce matériel dans la levure. Je rajouterai ici qu'il faut rajouter les petits interrupteurs pour que ça marche bien. Donc les interrupteurs qui font marcher dans les surrénales les gènes qui correspondent à chacune des réactions ne sont pas toutes les mêmes. Donc il fallait changer les interrupteurs. Donc ça, on l'a fait assez facilement. Maintenant, tout est, disons, planifié. Il y a des moyens techniques absolument formidables qui n'existaient pas quand on a commencé à faire du génie génétique. Donc les choses sont beaucoup plus simples. La manipulation de l'ADN, ça s'apparente plus à prendre des morceaux de scotch et à les coller à un endroit, à les recoller, les décoller, les découper comme on veut. Donc ça, c'est très facile. Donc ce qu'on a fait, donc on a pris une levure soi-disant normale, qui sont des levures de boulanger. C'est donc la levure dont le génome a été séquencé. On l'a transformée avec l'ADN qui correspond à la réaction 1. On a obtenu donc ce qu'on appelle une levure recombinante. Je précise que tous les produits intermédiaires A, B, C, D, E, on les avait par la synthèse chimique, on les avait, donc on savait déjà les faire, on savait les identifier, ce qui nous avait grandement simplifié la tâche, puisque Roussel était déjà le producteur de tous ces intermédiaires. Donc on a pu vérifier que nos levures recombinantes, quand on leur mettait dans leur culture le produit A, on pouvait voir le produit B apparaître. Et on a fait ça pour chacune des réactions que j'ai citées, donc toutes les réactions avec tous les intermédiaires. Bon, il y a un petit problème sur la première réaction. C'est là où on a le plus eu de problèmes. Parce qu'il a fallu faire une molécule que la levure supporte et que nos enzymes humaines supportent. En fait, ça a été mis au point en utilisant une enzyme de plante qui a été capable, elle, d'enlever, ici on voit une double liaison pour les spécialistes, qui nous gênait pour faire cette réaction. Et à partir du moment où on a réussi à faire ça, on a pu enclencher tout le système et voir ce que ça produisait. Donc ce que je lui exprimais là, en fait, c'est qu'on a fait une levure donc, qui faisait un espèce de cholestérol, qui ressemblait du cholestérol, qui est en fait un stérol de plante, qui est reconnu par la première enzyme de nos surrénales, et on a pu ainsi linker tout ça. Je résume vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Donc là, c'est juste les seules diapos de données que je présente. Donc on a introduit 9 gènes dans cette levure. Donc il y a 9 gènes exogènes qui ont été introduits. Il y a à peu près il y a 8 gènes de mammifères et 1 gène de plante. On a dû inactiver des gènes, c'est quelque chose de assez remarquable dans la levure, c'est qu'il y a à peu près 80% des gènes qui servent à rien et 20% qui en servent à quelque chose. Donc on peut inactiver des gènes sans que la levure meure, en tout cas dans les conditions assez non naturelles dans lesquelles on les fait pousser. Là, c'est juste pour vous montrer, c'est notre système, c'est des traces HPLC, c'est un système qui permet la détection de tous les stéroïdes. Là, vous avez l'ensemble de tous les stéroïdes qui sont détectés, donc qui doivent être produits par la levure, et là, c'est notre vraie levure, c'est ce qu'elle fait. Donc F, ça correspond à l'hydrocortisone, et vous avez un peu des intermédiaires. Donc on a réussi, après de nombreuses années, à mimer ce que faisaient les cellules de mammifères et à transformer une levure et à la rendre capable de faire de l'hydrocortisone. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qu'il y a sous le capot. En fait, on a l'impression que c'est super simple, mais en fait, c'est pour montrer que les deux, disons, le pathway exogène, enfin le système exogène qui vient des cellules de mammifères et le système endogène sont complètement interconnectés, qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'est qu'une usine et qu'est-ce que c'est. Ça, c'est l'intérieur d'un fermenteur. Ça, c'est les fermenteurs alignés. Donc maintenant, avec ce procédé-là qui est en cours d'industrialisation, donc je peut dire en même temps qu'il y a plusieurs usines qui vont pouvoir être mises en place pour essayer de faire ce procédé, donc est dans un système confiné, que la levure ne s'ennuie plus en fait. Alors quels sont les avantages? Il y a évidemment une consommation réduite de solvants et de réactifs, puisque en fait on a beaucoup moins d'intermédiaires. Le cycle de production est beaucoup plus court. Il y a une meilleure disponibilité, c'est-à-dire si jamais on a besoin tout d'un coup d'une énorme quantité d'hydrocortisone, ça serait plus facile à faire. Les tailles des lots est plus grand, pas d'intermédiaires de synthèse, donc pas de stock, parce que quand vous avez 23 étapes, vous devez stocker tous les intermédiaires de synthèse pour pouvoir en produire suffisamment. Évidemment, ce qu'on espère, c'est d'avoir un prix de revient qui nous permette de tenir la route. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite levure. On a fait on a fait la première page de Nature Biotechnology, qui est l'équivalent du Monde ou du Figaro pour nous, les scientifiques. Ça, c'est pour vous montrer que c'était une grande équipe. On a travaillé pendant des années. Il y a des gens de tous les horizons. Il y a des gens d'ici qui ont travaillé sur ces projets. Ça, c'était la première partie. Disons que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que maintenant, il y a une nouvelle équipe qui a pris le relais, donc qui va, elle, s'occuper de l'industrialisation. Donc il y a ici Paul Baduel, qui est le chef du développement des procédés à Sanofi Aventis, qui s'en occupe maintenant. C'est une équipe européenne, Denis Pompon du CNRS, Roberto Spagnoli qui était italien, qui est l'initiateur du projet à Roussel-Uclaf. Ici, vous avez deux Allemands. Donc l'un est professeur et lui, le financier qui nous trouvait l'argent quand il n'y en avait plus. Et là, il y a l'ancien chef de la production. Donc il y a une nouvelle équipe et qui a déjà été remplacée au fur et à mesure qu'on entre dans l'étape d'industrialisation. Donc, parce qu'on est arrivé à un niveau où il faut calculer la consommation d'électricité, enfin des tas de choses qui ne sont pas très intéressantes pour les scientifiques. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la levure ne s'ennuie plus. Et puis là, vous avez le premier lot de ce qu'on a appelé de la biohydrocortisone fabriquée. Donc à l'époque, c'était Aventis. Et voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je prends maintenant les questions.
Alors moi, j'ai une question qui est que, bon, là, vous avez passé plusieurs années de travail à mettre au boulot la petite levure et maintenant certains, pour produire des médicaments, et maintenant certains veulent mettre au boulot certaines plantes diverses et variées pour produire des médicaments. Quels seraient les avantages ou les désavantages d'utiliser des plantes pour produire des médicaments? D'autres termes, quelles sont peut-être les limites de la levure pour produire des médicaments?
Non, tout ça, c'est au cas par cas.
Oui, voilà.
Donc, il n'y a pas de généralité dans ce domaine. Et si vous pensez, en fait, si vous pensez aux lipases qui sont produits dans les plantes, en fait, ce qui se passe maintenant, quand on veut produire une protéine recombinante, on essaye tous les systèmes qu'on connaît, et quand on en a un qui marche, ben, on le prend. Bon, il se trouve qu'il y a certains cas assez rares, quand même, où ça marche dans les plantes. Deuxièmement, il ne faut pas mélanger du tout les plantes en plein champ, et ça, dans des usines fermé, confiné, régulé, où tout est contrôlé. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le génie génétique, il a plus de 30 ans d'existence. Et maintenant, donc, on sait que quand on a besoin de faire une protéine à haute valeur ajoutée, comme le PO, on essaye tous les systèmes. Et quand on trouve le système, on y reste. Et donc, quand on a le malheur de tomber sur des plantes, tant pis. C'est le plus difficile, à mon avis, mais les autres... Enfin, il n'y a pas de mode. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de système générique qui permettrait de faire tous les médicaments. Deuxièmement, l'hydrocortisone, là, c'est un exemple. C'est un exemple qui n'est pas généralisable, que ça peut marcher que quand les produits sont d'origine naturelle et qu'il y a un organisme qui fait et qui est manipulable, qui fait quelque chose qui permettrait d'être modifié pour en faire un médicament. Donc j'ai choisi cet exemple parce qu'il est assez encourageant pour la recherche qu'on peut faire en France, mais il n'est pas généralisable. Voilà. Et deuxièmement, l'hydrocortisone. Qu'est-ce que je veux dire, Roussel était un des premiers fabricants du monde d'hydrocortisone. C'est pas le cas de toutes les molécules, c'est pas le cas d'autres molécules qui sont aussi bien vendues. Et deuxièmement, pour le malheur de ce genre de projet, l'hydrocortisone, c'est un médicament qui est peu cher, en fait. Dans le market price, c'est à peu près 1 000 $ par kilo, donc c'est pas cher du tout à comparer. Et deuxièmement, la production n'est pas très grosse, parce que là, quand je vous dis 100 tonnes, ça vous paraît énorme, mais l'aspirine est produite à 44 000 tonnes. Donc, c'est quand même des petits volumes, finalement. Ça fait quand même des grosses usines, mais c'est des petits volumes, relativement.
Oui, alors toujours pour poursuivre sur l'aspect économique et le lien avec les années de recherche et développement, est-ce que vous pensez que les ventes vont couvrir finalement l'investissement qui a été nécessaire et que vous ne pouviez pas prédire, puisque je ne pense pas que vous pensiez au départ mettre 10 ans ou plus pour arriver au bout du procédé?
Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Mais on l'a fait, donc on ne va pas regretter. Deuxièmement, au départ, quand on est parti en 92, on avait déjà quelque chose de remarquable à l'époque qui est invisible maintenant. C'est qu'on avait décidé un financement pour 7 ans. Donc, ce qui est maintenant, il y a très rarement des projets où on décide dès le départ, on va mettre de l'argent pendant 7 ans sur ce projet. C'était dû au fait qu'à l'époque, c'était encore Roussel-Uclaf, qu'il y avait des usines entières qui dépendaient de l'hydrocortisone. Et donc, il y avait une volonté, disons, de maintenir ces usines et donc de faire de l'hydrocortisone moins cher. Voilà, c'est simple. Donc, c'est sûr que maintenant, on regarde beaucoup plus le prix de revient et l'investissement et qu'on ne l'aurait pas fait parce que l'hydrocortisone n'est pas assez cher. C'est ce que je voulais dire, oui.
Vous
vous êtes un chercheur, vous avez atteint votre but. Je suppose que vous ne pourriez pas nous dire maintenant quel est votre but prochain. Parce que là, votre travail, il est terminé.
Si, je peux vous le dire.
Ah bon, bon.
Non, mais c'est vrai que c'était un sentiment très agréable. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Donc on attend les décisions d'industrialisation qui ne devraient pas tarder à arriver. Mais à chaque une chose qui est très dure, c'est qu'à chaque année, on peut vous dire d'arrêter parce qu'on est arrivé à un niveau. On pense que ça n'avance pas assez vite. Et malheureusement, les gens qui financent cette recherche ont une vision assez linéaire de la recherche. Et ce n'est pas linéaire. Donc il y a des années, on ne produit rien. Puis des années, on produit beaucoup mieux. Et donc, y a une échelle. D'abord, il y a une échelle de temps qui est énorme. Bon, là, on a de bons espoirs de finir. Ça serait un bon exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on arrête et on est très près du but. Donc, ça peut s'arrêter. La différence, d'abord, il y a une échelle de temps qui est énorme. Il faut comprendre que, entre le moment là, donc on a produit ces premières levures en 99-2000. Donc, on va arriver à l'industrialisation bientôt là. Donc, il s'est passé encore 7 ans de mise au point, d'amplification, de tas de choses, de dossiers, qui sont compliqués à réaliser et qu'on ne peut pas réaliser plus vite, en fait.
Une question d'ordre plus général. Donc là, on a vu la levure. Vous avez parlé un petit peu des Escherichia coli. Donc dans l'industrie, justement, pharmaceutique et la biotechnologie, quels sont les organismes qui sont le plus utilisés pour fabriquer des médicaments ? Non, c'est pas la levure, bien sûr.
Non, c'est Escherichia coli et les cellules d'insectes, en fait. Et essentiellement, pour les protéines d'intérêt thérapeutique, c'est Escherichia coli, parce que les niveaux d'expression qu'on peut atteindre avec Escherichia coli, s'il n'y a pas des modifications post-traductionnelles qui sont compliquées, sont très élevées, beaucoup plus élevées que ceux de la levure. On utilise, et en plus, donc voilà la raison, mais il reste quand même, il y a encore des projets, par exemple l'hépatite B, le vaccin d'hépatite B, l'antigène S est fabriqué dans la levure. Donc il y a encore des endroits où la levure reste. Bon, et c'est vrai que tout ce qui tourne autour des stéroïdes, la levure est meilleure. Elle a une qualité que n'ont pas d'autres organismes, c'est qu'elle résiste à beaucoup de modifications de ses membranes, et donc les stérols ou les stéroïdes qu'on peut produire dedans sont multiples, sans qu'elle meure. Donc ça, c'est une qualité qui est assez rare.
J'avais cru voir se lever une autre main.
Bonjour. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi les dynamiques dans les entreprises. Dans la première diapo, vous avez fait apparaître un petit peu le processus de fabrication et puis les avantages. Est-ce qu'il manque une diapo sur les inconvénients ? Ou est-ce que je ne l'ai pas vu ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients ? Ou est-ce que vous pouvez les reciter ?
Il y a les mêmes inconvénients.
Ça, c'était la première question. La deuxième, OK pour faire le distinguo entre les travaux sur OGM en milieu confiné et puis les OGM en plein champ. J'aimerais que vous donniez votre avis personnel, éventuellement, sur les OGM en plein champ. Essayez de trouver une autre réponse que je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Merci.
Non, mais je peux donner que mon avis personnel. Je ne représente pas Sanofi Aventis. Donc, mon avis personnel, le problème, c'est qu'il faudrait arriver à faire des études objectives dans le domaine. Donc, il y a eu quelques essais, mais donc, à mon avis, vu l'investissement intellectuel, c'est difficile d'avoir un avis objectif sur la question. Je veux dire, il n'y a pas de recherches claires qui ont été faites. Moi, je pense qu'il faudrait. Il y a plusieurs problèmes. Le problème de la dissémination et puis le problème de ce qu'on peut produire à partir de ces plantes génétiquement modifiées. Bon, la dissémination, apparemment, le problème est plus compliqué qu'on le pensait parce qu'apparemment, il y a de l'ADN qui peut se promener. Donc, l'ADN exogène qui n'est pas de l'ADN de la plante qui peut se promener un peu partout. Donc, ça, on l'avait, je crois, pas très bien mesuré. Et ça, on peut faire des études là-dessus. Et je pense qu'il faut faire de la recherche pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Bon. Et je pense aussi que sur les plantes génétiquement modifiées, il faut faire pareil, faire des études comme on fait sur n'importe quel aliment. Il y a des aliments qu'on ne vend pas parce qu'ils sont toxiques. Ben là, il faut faire des études pour voir la même chose. Je pense que c'est ça le point. Et deuxièmement, je pense que chacun est libre de vouloir manger des aliments non génétiquement modifiés ou des aliments génétiquement modifiés. Il faut laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils ont envie. Et donc la liberté de ne pas en manger s'ils n'ont pas envie d'en manger. Voilà. Je pense que le point est là. Mais je pense qu'il y a eu un mélange entre, disons, les aspects économiques de toutes ces recherches qui coûtent très cher, évidemment, et donc les entreprises qui ont fait ces recherches ont envie d'avoir un retour sur investissement, c'est assez naturel, donc il y a une pression économique énorme, et c'est pas du tout la même chose, enfin, la façon dont les OGM plantes sont cultivées, ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait dans nos usines. Dans nos usines, il y a des ouvriers qui sont payés par Sanofi Aventis, donc ils sont des employés de Sanofi Aventis, alors que dans les plantes, c'est des paysans qui ne sont pas des employés de Monsanto ou de je ne sais pas qui, et donc c'est pas du tout pareil. Donc je pense qu'il faut déjà traiter le problème comme ça, parce que c'est complètement différent. Et c'est vrai que c'est choquant de voir que les agriculteurs sont obligés d'acheter des semences. C'est choquant du point de vue de l'agriculteur, mais c'est pas forcément choquant du point de vue de l'industriel qui, lui, a fait des investissements, a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de recherche pour mettre au point ses plantes. Donc évidemment, il a envie d'un retour sur investissement, ce qui est logique. Et je pense pour le danger, il faut faire des études plus profondes et qu'on a peut-être sous-estimé probablement le problème au départ. Et je pense qu'on ne va pas nourrir la terre en faisant des organismes génétiquement modifiés, qu'on peut faire des cultures normales serait suffisante. C'est un problème politique, là, enfin, non, c'est pas un problème de culture. Voilà ce que je pense.
Moi, vous veniez d'évoquer de façon très succincte Monsanto. Juste une petite précision à propos de Monsanto et des plantes médicaments et des retours sur investissement. Monsanto se désengage des plantes médicaments précisément parce que c'est une entreprise d'agro-semencier, ce n'est pas une entreprise qui a une historique de fabrication de médicaments. Et donc, ils se désengagent là parce qu'ils considèrent qu'ils seront les seuls dans la sphère industrielle à supporter le risque, que ce risque ne serait pas supporté en parallèle par l'industrie qui, elle, purifierait la substance médicamenteuse à partir de la plante pour en faire le médicament stricto sensu. Donc il y a effectivement des industries qui s'intéressent aux plantes médicaments, mais plus Monsanto.
Et on pourrait peut-être faire des cultures confinées de plantes pour faire des médicaments. C'est différent. Enfin, je pense que je connais qu'un seul cas, mais peut-être que dans la salle, il y a d'autres.
Je connais qu'un seul cas de médicament qui est fabriqué dans les plantes, c'est donc la lipase, qui est une molécule pour les... Comment ça s'appelle ? Cystic fibrosis, comment on dit en français ?
La mucoviscidose.
La mucoviscidose, voilà. Le médicament pour la mucoviscidose. Bon, je connais que c'était cet exemple-là. Et apparemment, moi, j'avais rencontré les gens, ils ont tout essayé. C'est le seul endroit où ils arrivent à en produire suffisamment. Donc, je pense que ça mérite de permettre à ces gens de les cultiver dans des conditions de sécurité, mais ça doit être possible à faire quand même. Je pense que la mucoviscidose mérite ça. Je veux dire, c'est dommage de ne pas le faire. Simplement. Et bon, et peut-être qu'il y a d'autres... Je pense que s'ils ont tout essayé, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc il faut leur faire confiance. Et en plus, les plantes, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mon avis. Donc... C'est beaucoup plus facile si on pouvait le faire dans l'Escherichia coli ou n'importe quel autre système, n'importe quelle autre levure, n'importe quel autre. Il y a plein d'autres systèmes qui seraient plus faciles.
Et un petit détail qui n'est pas inintéressant non plus, c'est qu'au départ, ils avaient commencé par faire cette transgénèse chez le tabac, et qui posait moins de problèmes, parce qu'il n'y avait moins de problèmes de ségrégation des filières, puisque le tabac, on n'en mange pas. Et puis, pour des raisons techniques et de rendement également, ils sont passés sur le maïs. Et c'est là, on va dire, que les problèmes médiatiques ont commencé vraiment, parce qu'il y avait cette crainte.
Je me demande pourquoi ils n'essayent pas de les cultiver, comme on cultive nos cellules, on fait bien des cellules de mammifères dans les fermenteurs. Pourquoi on ne ferait pas des cellules de plantes dans les fermenteurs Ben oui, ça serait, à mon avis, je ne comprends pas, ça serait beaucoup plus simple. En plus, maintenant, les techniques ont beaucoup évolué, donc les prix de revient ont beaucoup baissé. On est capable de faire des 10 000 litres ou 100 000 litres, donc 100 mètres cubes. Donc je ne comprends pas. Ça n'a pas d'intérêt de le faire dehors dans des champs, enfin, à mon avis. Mais c'est aussi une petite entreprise, aussi, c'est pareil. Hein. Il faut qu'elles aient les moyens d'investir là-dedans. Ça peut prendre trop de temps et elles n'ont peut-être pas assez de temps pour attendre ça. Hein. Tout le monde n'est pas Sanofi Aventis. Hein. On ne peut pas attendre 10 ans avant de sortir quelque chose.
Pas d'autres questions ?
Alors c'est miraculeux, nous avons 5 minutes d'avance sur le programme et maintenant c'est l'heure de la pause. Donc nous pouvons la prendre. Donc un quart d'heure de pause et merci à Bruno Dumas encore une fois.